Chacun dans l'orchestre et je pense qu'on va là récemment donc on a attaqué des nouveaux morceaux. Quelques semaines avant qu'on reçoive les partitions, qu'est-ce que Guillaume va écrire, qu'est-ce que Hubert va écrire, qu'est-ce que je vais écrire alors qu'on a déjà beaucoup écrit pour cet orchestre. Et puis finalement on a amené des choses et je les regarde dans tous les sens, je me dis bon ok le travail va commencer quoi. Et il y a la même ardeur finalement à avoir envie de poursuivre cette magie qu'on arrive à fabriquer sur scène. Voilà, donc 20 ans ou pas, comme disait je ne sais plus qui, c'est un jeune groupe finalement. Enfin, c'est vrai que c'est rare sur la scène sur laquelle on est d'avoir comme ça des choses qui durent aussi longtemps, mais en ce qui nous concerne, il y a toujours la même jeunesse, j'ai envie de dire, enfin la même vitalité, on a toujours la même envie de. Et d'ailleurs, tout ce qu'on fait par ailleurs nourrit l'orchestre, puisque nos jeux ont évolué au fil des années, se sont nourris de plein de choses qu'on a faites et. Et puis Quartet continue, enfin moi, je parle pour moi là, mais Quartet continue de nourrir mon jeu et mon imaginaire.
Bah, moi je dirais que c'est d'autant plus facile parce qu'il y a le côté connivence accumulée, acquise de longue date, et donc on se comprend assez facilement et assez rapidement sur des trucs qu'on a en commun depuis longtemps, et donc je dirais que c'est plutôt plus facile quand on joue depuis longtemps ensemble que pour un groupe nouveau.
Au fil du temps, depuis la première rencontre jusqu'à aujourd'hui, en fait, il y a une continuité. Il n'y a pas vraiment de rupture drastique où on s'est dit bon là, on a écoulé nos possibilités sur tel domaine d'improvisation ou de dialogue, et il faut donc qu'on trouve, notre ressort va être dans une rupture et dans un changement total. En fait, on n'a pas, peut-être qu'on en aura besoin plus tard, mais on n'a pas eu besoin de ça. Au contraire, on étoffe, voire on épure aussi les mêmes idées, le même tissage, comme dirait Benoît.
Disons je crois que le propre d'un groupe comme ça, c'est de suivre une ligne. Il se trouve que peut-être que la ligne qu'on a inconsciemment définie dans les premières bases de travail était juste à par rapport à cette équipe de gens, et en conséquence, il n'y a pas besoin de casser ça. Il y avait une intuition, je pense, au début du groupe. On avait tous envie, un, d'une aventure musicale.
De l'expérience du groupe.
De l'expérience d'une vie de groupe au sens collectif. La première année, on est parti. On a eu la chance d'avoir une résidence ensemble. On a vécu pratiquement un an à répéter dans la même maison, quasiment chaque jour, dans le sud de la France. Ça a quand même scellé... peut-être une relation de travail, une façon de travailler ensemble, une façon chacun de travailler aussi nos instruments, parce que chacun travaillait notre instrument le matin, on se retrouvait l'après-midi, enfin voilà. Mais c'est surtout qu'on a trouvé une musique à faire ensemble, chacun en amenant des choses, et en fait, on n'a pas fini ça. On n'a juste pas fini. Et c'est pas évident de renouveler le répertoire, de se dire tiens, qu'est-ce que je vais écrire. Là, je sais que là, pour les nouveaux morceaux que j'ai écrits, ça a été un processus assez long, mais de toute façon, en ce qui me concerne, plus ça va, plus je mets du temps à écrire des nouvelles choses, j'ai l'impression de me répéter, donc j'arrête, je repars sur autre chose. On se répète toujours un peu, mais voilà. Donc, je pense que la musique qu'on doit faire ensemble, on n'a pas encore fini de la trouver. Et surtout, on la redécouvre chaque soir quand on joue. Enfin, à chaque concert, il se passe toujours des choses qui nous surprennent. Il y a toujours une alchimie qui est là. Et on serait bien mazo, finalement, de renoncer à ça. Enfin, je ne crois pas qu'il ait le moindre envie... Même de distance, ou enfin je veux dire, c'est vraiment quand on le vit, quand on se retrouve ensemble pour travailler, et on aime travailler ensemble, on aime répéter, c'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir.
Moi je pensais qu'il y a des moments dans Quartet où on se prépare à amener une nouvelle composition, et où on se dit ah tiens, ça va intéresser les copains, et en plus voilà, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait un petit peu, mais là ça va aller un tout petit peu plus loin, donc voilà, ça va nous, on va progresser, on va aller encore un peu plus loin dans ça. Donc c'est ça qui nous fait nous retrouver toujours. Et il y a aussi d'autres moments où par exemple moi je compose un nouveau truc, puis je me dis ça serait pas tellement pour Quartet, c'est pas grave, je le ferai avec un autre groupe. Voilà, donc on peut tout à fait, il y a tout à fait la place à la fois pour faire des choses en dehors, mais aussi pour continuer d'avancer, de progresser dans cette espèce de sillon, j'aime bien le mot aventure, l'aventure qu'on a commencé il y a longtemps ensemble et qui se poursuit, qui est passée à travers divers paysages, etc., puis qui maintenant a une apparence sans doute assez différente de ce qu'on faisait au début, encore que, je sais pas, il y avait peut-être déjà pas mal de choses qui étaient en ferment dans le premier disque qu'on a fait. C'est pas très éloigné, en fait.
Ouais, donc c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a essayé de développer au départ, c'était d'avoir, appelons ça une attitude d'oreille, une façon, une certaine relation à chaque composition. Et ça, on le poursuit encore aujourd'hui. C'est-à-dire que l'idée était bonne, en tout cas, enfin, dans le travail qu'on a fait pour les premiers répertoires, le premier disque, etc., on a réussi à créer une alchimie on essaye encore. Alors ça, encore une fois, c'est une exigence que je me dis avant le concert, je me dis bon, de toujours bien rester dans le cadre des morceaux. Ça n'empêche pas l'aventure d'ailleurs du tout, d'avoir des contraintes, mais d'essayer de faire sonner chaque morceau la façon dont il devrait sonner à nous quatre. C'est pas forcément d'ailleurs un pléonasme de la composition sur le papier au départ, quoi. C'est justement un complément, un palimpseste, quelque chose qui mute. Mais cette idée de un morceau, une façon de jouer, ça je crois que c'est finalement très simple comme exigence, a su nous garder attentifs à ça. Voilà. C'est un privilège, quoi. C'est ça, on le vit d'ailleurs comme ça.
Dit attention, faut pas trop faire ça, parce que il faut qu'on mène notre aventure à nous et qu'il soit pas le plus petit dénominateur commun ou je sais pas quoi, ou pour faire plaisir, même si on avait évidemment beaucoup de plaisir à jouer avec ces musiciens. Mais il y a eu un moment où on s'est dit attention, faut qu'on fasse notre musique à nous sans se laisser un peu trop embarquer dans des influences comme ça. Et moi j'ai l'impression que même si on est ouvert, on y pense quelquefois à inviter dans Quartet un tel ou un tel parce qu'on a des amis en commun et qu'on sait que ça marcherait. Mais je me demande dans quelle mesure, consciemment ou pas, on revendique en fait d'avoir notre son, d'avoir notre groupe et qu'on nous foute la paix comme ça. Et ça va un petit peu avec le refus d'un processus qui se passe pas mal dans le jazz actuellement et aussi avec le fonctionnement des institutions. C'est que il y en a des qui voudraient toujours qu'on arrive chaque année avec un nouveau projet, avec un truc à thème ou un hommage à je ne sais pas qui ou une invitation croisée avec je sais pas qui. Et en fait, consciemment ou inconsciemment, je crois qu'on revendique le fait de ne pas fonctionner comme ça. Et chaque année, on va revenir en disant, bah, c'est toujours nous. Voilà, on a quelques compositions en plus, nouvelles, mais c'est toujours nous. Et voilà, on est content comme ça.
Non, tu as raison. Ouais. C'est que on fonctionne tellement pas sur l'image que quand je disais que ce serait possible qu'on invite d'autres musiciens. Je pense effectivement pas aux expériences. Ça ressemblerait pas aux expériences passées. C'est-à-dire, c'est pas forcément quelqu'un qui a un nom. C'est plutôt quelqu'un qui a déjà partagé avec l'un d'entre nous, plusieurs d'entre nous, de la musique et de voilà une mise en jeu en commun et avec qui ça a bien pris et qui est intéressé par ce qu'on fait ou dont on imagine qu'il le sera et voilà et mais histoire de prolonger le son de quartet plus que plus que d'avoir ouais c'est ça un invité
plus que de le décliner de suivant des modes différents avec des invités à chaque fois
ouais. Mais c'est vrai que d'envisager ça enfin, évidemment on peut le faire, on l'a déjà pensé, on s'est dit tiens d'ailleurs je crois qu'on s'était dit tiens on pourrait inviter X ou Y mais l'intensité du son qu'on trouve ensemble est tellement pour enfin je dis, le concert commence c'est quartet quoi ça demanderait faut vraiment pas faire ça avec n'importe qui c'est complètement futile ce que je dis mais enfin c'est une évidence totale mais je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un désir des quatre encore une fois, comme dit Guillaume, si justement qu'on ait déjà peut-être partagé des choses ensemble, ou alors qu'on ait le coup de foot pour, je sais pas, tromboniste, qu'on voit jouer ensemble, on est à un festival, je sais pas où, en Allemagne, on va jouer un gars, et on se dit, oui, jeune femme, je ne sais pas, et on se dit, ah, mais ça, faut faire. Voilà. Je pense que ça se passera peut-être, mais pour l'instant, là, on évoque comme ça un prochain 10, etc. J'ai pas pensé une seconde à avoir quelqu'un en plus dans l'orchestre pour pour un prochain disque
oui. Bon, on n'a jamais joué en Allemagne, donc. Mais sinon, c'est vrai que j'oubliais tout de même qu'on a fait quand même pas mal de concerts avec un saxophoniste finlandais qui s'appelle Pepa Päivänen.
Oui, il y a eu Pepa, ouais. Pepa. Mais c'était quelques morceaux, tu vois.
Pepa Päivänen. On a quand même fait plusieurs concerts. D'abord, on a partagé une tournée avec son trio, et puis du coup, on l'a invité sur un, deux morceaux, et ensuite, on a fait des concerts où il jouait plus de la moitié des concerts. Et je sais qu'à ce moment-là, j'ai écrit au moins deux morceaux que je concevais seulement pour quartet, que je n'ai pas recyclé dans d'autres groupes, et qu'on ne joue pas parce qu'en fait, il manquerait une voix. Donc,
voilà. C'est vrai. Et ceci étant, il est arrivé aussi dans un passé plus récent que pour des raisons d'agenda, Hubert a été remplacé une fois, Chandler a été remplacé 3-4 fois, moi une fois ou deux, Guillaume jamais, et ça s'est très bien passé. Donc Stéphane Gallant remplacé, Franck Maillot remplacé de Chandler, moi j'étais remplacé par
Joseph Dumoulin.
J'ai pas encore écouté d'ailleurs, parce qu'avec mon déménagement, j'ai récupéré le CD, parce que du coup Guillaume m'a envoyé le disque avec, et ça me fait très. J'ai très hâte d'écouter Joseph jouant mes morceaux. Évidemment, ce des copains, mais comment il va jouer mes trucs alors que mon bordel intérieur, comment on va essayer de faire ça. Et ça s'est pas du tout cassé la gueule, donc il y a aussi quand même une solidité des compositions et de l'univers de chacun, quoi.
Les compositions de nous tous dans quartet, je dirais que il y a beaucoup de moments où les uns et les autres peuvent jouer la partie des uns et des autres, et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les compositions dans quartet sont bourrées de petits signaux de fumée qu'on peut agiter à des moments pour ouvrir une porte et aller là, refermer, revenir là, etc. Et on fonctionne, je pense qu'on fonctionne beaucoup par, par communication entre nous. Je dirais pas que le fait que ça sonne bien ou pas, que ça soit beau, etc., est un peu secondaire. Mais en fait, je crois que c'est la musique va bien marcher, va être belle pour les gens qui écoutent. Si ce niveau d'écoute entre nous fonctionne tout à fait bien et si ça rebondit dans le sens où chaque fois que quelqu'un fait un petit appel, il y a une réaction des autres, etc. Je pense que dans les compositions qu'on fait, il y a pas mal de moments où on peut effectivement se saisir de la partie mélodique ou rythmique, etc., pour aller dans une certaine direction et renverser un peu la musique tout en jouant le même morceau.
C'est-à-dire que c'est lié au son, en fait. Je pense que les initiatives qui sont prises à l'intérieur du groupe sont directement liées au son, dans le sens où si on a tant soit peu de maîtrise du matériau qui est à l'intérieur, enfin qu'on manipule, à partir du moment où on prend des décisions qui sont en fonction, qui tiennent compte du son d'ensemble, ça peut circuler très très vite et de façon très surprenante. C'est pour ça qu'on se surprend encore sur parfois des morceaux qu'on joue depuis peut-être 4 ou 5 ans, comme vraiment un objet qu'on regarde d'un autre endroit. C'est comme un objet en 3 dimensions qu'on va animer le soir du concert. Et effectivement, si le timbre est là et si ce que chacun fait est articulé avec une intention de timbre qui est claire ou qui est on va dire maîtrisée, c'est ambitieux de dire ça, mais qui est là, on peut effectivement s'échanger les rôles, etc. Mais j'ai envie de dire, il y aura toujours dans l'ensemble l'un d'entre nous, ou deux, ou comme ça, qui veillera d'une façon inconsciente à ce que la cohésion opère à tout moment. Alors, c'est jamais gagné d'avance, c'est rarement tout au long d'un concert. Il va forcément y avoir des moments où ce soit une histoire d'attention qui va redescendre, etc. On essaye de faire en sorte que ce soit constant, évidemment. Donc il y a des concerts où on sort hyper heureux, et des concerts où on se dit, ah là, dans ce morceau-là, moi, ce que j'ai fait, c'est n'importe quoi, ça déconne, j'ai déconné, etc. Alors parfois, les gens du public vont pas forcément se dire, tiens, est-ce qu'il a déconné, c'est pas le problème. Mais je crois que c'est cette complicité-là qui existe, et c'est vraiment une conscience collective du son. Et ça, c'est vraiment propre à un groupe, en fait. Donc c'est pas l'ego, c'est pas tiens je vais faire mon solo là. Parfois on se demande qui a fait un solo finalement, même si on phrase tous, mais c'est pas forcément quelqu'un qui est devant ou pas, on se renvoie la balle, c'est très ludique, hein. C'est encore un privilège de pouvoir le faire, c'est pas forcément tous les groupes dans lesquels on joue. Enfin, ce mode opératoire est relativement propre à... C'est ce qu'on cherche dans chaque orchestre, évidemment, mais c'est vrai que l'ancienneté, la bonification de la complicité fait qu'on a cette option-là devant nous, toujours. Si, encore une fois, je suis pas personnellement toujours super content de ce que j'ai fait, à tel moment, de la décision que j'ai prise, etc. Mais il se peut aussi que je prenne une initiative qui va aller contre tel son de la batterie, etc., et que finalement ce soit Hubert qui l'entende et qui propose autre chose, et finalement je vais m'écarter de ma première idée, et voilà. Et c'est vraiment une forme d'amitié musicale très avancée, quoi, enfin, très rare. Il peut y avoir des moments d'égarement où sur le moment on le vit comme quelque chose de l'égarement, et finalement soit on en fait quelque chose, on le transforme, soit à distance, plus tard, on réécoute par exemple le moment en question et on se dit, ah mais cette fragilité-là, finalement, elle est très... Moi, elle m'intéresse, je vais écrire un morceau sur cette idée-là. La fragilité, elle apparaît parfois par accident, mais elle peut être aussi elle peut être aussi contrôlée, la fragilité. C'est quelque chose qui se manipule. On manipule beaucoup, en fait.
Non, on travaille tous sur la forme.
Bien sûr, bien sûr.
Le fait de pouvoir jouer la forme. Je sais pas, moi, mon instrument n'est pas absolument connu comme un instrument qui a une fonction de rythmique ou voilà, ou de...
Oui, mais basse. Pourtant, tu sais, si tu le joues comme ça.
Enfin, je suis même un militant de ça, c'est-à-dire que j'adore jouer dans des contextes de musique complètement improvisée où justement il n'y a pas de forme préalable sur laquelle se référer, mais en même temps, dans ce groupe-là, ou dans des groupes où, sur les, quand on improvise sur des formes, on a en tant qu'instrument monodique, tous les instruments à souffle ou quoi, n'ont pas à attendre de qui que ce soit pour tenir le rythme, la forme et tout ça. Mmh. Mais ça, c'est pas nouveau, hein. Je veux dire, Sonny Rollins en club, qui commence à jouer un standard tout seul, il se retourne pas pour dire ouais, on va faire tel machin dans telle tonalité. Il le joue, et de toute façon, après trois ou quatre notes, les autres musiciens savent qu'est-ce qu'il est en train de jouer et vers où il va.
Ouais.
Et puis ils vont attendre un moment propice pour rentrer, mais ils jouent la forme.
De cette reprise de Monk qui est une espèce de remix acoustique, en fait, c'est-à-dire que dans les 10 quartets précédents, celui-là, il y a toujours eu une partie électronique un peu remix. Traditionnellement, dans le premier, on faisait une impro, ça, on a mis à l'envers, et là on n'y a pas spécialement pensé, et du coup, moi, il y avait deux raisons pour lesquelles j'ai écrit cet arrangement. C'est cette idée de remix qu'on n'avait pas mis en forme, donc je me suis dit, tiens, je vais amener ça, j'ai d'ailleurs amené au dernier moment, je crois, dans le studio. Je vais écrire un remix bio, quoi, un truc. C'est juste qu'il y a un autre terme. C'est l'expression de ma compagne qui appelle ça bio quand ça sonne comme un remix.
D'accord.
C'est joué en vrai. Et la deuxième chose, c'est parce que c'était la première parution discographique que Quartet allait avoir sur un label d'or américain. Et c'était une façon aussi, pour moi, pour nous, de dire, écoutez, nous on adore cette musique-là. Et voilà. On vient de ça aussi, avec notre culture, nos origines. Et voilà quel point on l'aime. Et la troisième chose, c'est un clin d'œil à Ornette Coleman, qui, dans la bande-son de Making Love, du Festival de Philippe Vandenberg, joue sur le thème de Mysterioso, avec un pianiste qui est cet enregistré à BBC à Londres, qui joue juste le thème à la main gauche, et Ornette improvise très librement au-dessus. Avec un tempérament en plus, quart de ton, etc. Il joue plus ou moins autour de sol majeur, alors qu'on essaie une espèce de blues en si, enfin, c'est un blues en si bémol. Et donc voilà. Et à l'intérieur de ça, il y a une citation de Steve Lacy, qui est quelqu'un qui a beaucoup soutenu l'orchestre à ses débuts, et les premières fois où Quartet est sorti de France pour jouer, on le doit pratiquement à Steve Lacy, je pense au Canada. Enfin, il a vraiment fait connaître notre musique à des décideurs à l'étranger. Au Japon aussi d'ailleurs, on n'y est pas allé, mais on y est allé plus tard. Et donc il y a une citation de Flex, de Steve Lacy, et quand je dis c'est un remix, c'est qu'il y a des fragments de d'autres compositions de Monk qui sont manipulées, qui sont décalées un peu à la Tristano dans sa phase, dans la phase, il y a le thème de Straight on Chaser qui apparaît, qui n'arrive pas au même moment dans la pulsation. Et voilà, alors après, sur le phrasé, le fait qu'il y ait, on nous dit souvent, c'est très ciselé, etc. Je pensais juste parce qu'on a eu l'attention aux détails, qui est de l'ordre de la syntaxe, de la grammaire, de la linguistique. Et effectivement, on a fait chacun un travail avec notre instrument qui est dans le détail de la façon dont on s'exprime.
Exactement le ressort originel de la démarche, de dire on va essayer de faire quelque chose qui est beau, qui sonne bien, etc. On est plutôt dans plein de petites réflexions et de bidouillages sur la grammaire, la syntaxe, les signaux qu'on s'envoie, les formes, la façon d'improviser sur des formes et de se comprendre mutuellement en faisant ça ensemble. Sauf que quand on compose, en fait, on passe pas mal de temps à faire ça et puis à enlever tout ce qui sonne pas bien. Donc, c'est pas du hasard. Et puis, quand on le joue, en temps réel, enfin, on a un souci constant d'être dans la bonne couleur au bon moment, de faire quelque chose qui va rehausser la mise en valeur de quelque chose. Voilà. Donc, on a quelque part la recherche de la beauté, l'esthétique. Enfin, quelque part, on s'en défait jamais. Non, enfin, on est là-dedans, consciemment ou pas. Enfin, et je pense que c'est la vraie façon de faire passer le message. Je sais pas quel est le message, mais à chaque fois qu'on affirme quelque chose en jouant trois notes, on a envie d'être entendu, on a envie de convaincre les copains et de ou même d'affirmer avec autorité quelque chose, ou voilà. Et en fait, je pense que je sais pas qu'est-ce qui est la cause et qu'est-ce qui est la conséquence, mais quand on arrive à bien faire ça, c'est à ce moment-là où les gens vont me dire ah, ça sonne bien, voilà. C'est un processus un peu qui se renvoie entre la recherche de la beauté et puis la recherche d'un bidouillage efficace. Voilà. Mais on pourrait dire ça de toutes les musiques. Hein. Enfin, je pense qu'un orchestre autrichien qui joue Mozart, il y a une recherche de beauté, mais il y a aussi le fait qu'ils se comprennent sur toutes les intentions, ils ont cette culture en eux, etc. Ils ont même le rebond rythmique qui va avec ces musiques-là. Dans la musique traditionnelle en Afrique, je pense que les gars ne cherchent pas forcément à faire un objet beau. Je pense que c'est même le dernier de leurs soucis. Ils sont en train de ritualiser quelque chose qui a une signification pour tous. Et voilà. Mais la vraie façon de faire porter ce message-là, ils le cherchent avec des frappes, avec des façons d'articuler les voix rythmiques les unes avec les autres. Et c'est là où nous, on arrive, on se dit « Oh là là, qu'est-ce que ça sonne, c'est incroyable, quoi. » Donc c'est peut-être pas la raison première de la musique.
Voilà, c'est comme si un petit peu vous nous demandiez est-ce que c'est de l'art ce qu'on fait. Alors nous on manipule des paramètres, on manipule des paramètres qui sont de l'ordre de la poésie, puisqu'on manipule la syntaxe, la grammaire, du rythme, du son, la poésie c'est pareil. Et c'est pas à nous de dire si on fait de l'art, c'est aux gens qui viennent nous écouter. Pareil pour le mot beauté, en fait. Bien sûr, il y a des moments où Hubert fait une intro, il y a un moment, il y a une phrase, c'est super. Enfin, voilà, il y a forcément des moments d'émotion. Voilà. Mais la beauté, elle est avant tout, je pense, pour nous, de faire ça en collectif. Moi qui ai eu la vocation d'être musicien par le côté collectif de la musique, et par, au détriment briller absolument, etc. Enfin, moi, c'est parce que j'ai commencé à faire de la pop à 13-14 ans, une pop, et c'était vraiment quelque chose de presque familial comme ça, ça m'a jamais quitté. Et ça, moi, quand je vais voir des concerts où je vois une équipe de musiciens qui sont sur un plateau, quel que soit le style d'ailleurs de musique, et qui sont à un degré d'empathie ou de risque, etc., des fois je suis pris d'émotion et je trouve ça beau. Alors, ça veut pas dire forcément qu'à ce moment-là, il y a eu un contrepoint extraordinaire entre l'alto et etc., mais c'est pas à nous de dire si c'est beau, en fait. À l'intérieur de l'orchestre, moi j'ai des moments où je sens des phénomènes d'exaltation. Après, quand on joue un morceau, qu'on finit le morceau et qu'on se dit ouais, c'est bien passé ce morceau, c'est bien ce qu'on en a fait. Ouais, bien sûr, j'ai de l'émotion hein, par rapport à cette beauté-là. Et parfois, chacun des gens dans l'orchestre m'émeut de par ce qu'ils font. Mais c'est pas voulu. Tiens, je vais écrire un beau morceau. J'ai envie d'entendre quelque chose, j'ai envie d'entendre quelque chose qui passe par-ci, par-ça, par-ça. Comment je vais faire? Je fais mon Lego, je me pose mes petites notes, j'ai plein de notes, plein de petits brouillons, machin, des petits styles, des calligrammes, machin. Je rassemble le tout. Il y a des fois où je fais fausse route, je jette. Des fois non, je suis content. Et si je suis content, je la mets à la répète et je me dis, voilà, on y va. Alors après, est-ce que c'est beau? On verra bien, parce que c'est pas à nous de le dire.
Thank you.
ce dont on parle quand on fait l'analogie avec le langage, la syntaxe, une grammaire musicale qu'on partage ou on définit où on s'attend à ce que chacun de nous la fasse sienne et en fasse devenir langage, c'est pas uniquement pour parler entre nous, mais c'est aussi pour projeter quelque chose de particulier et qui va sonner particulier justement du fait de ces règles du jeu ou contraintes, en dehors du sens péjoratif du mot contrainte, mais la façon de penser à ce qu'on fait individuellement et ensemble induit forcément un son qui est inhérent à cette façon de penser. Voilà. Ça, on a ça à l'esprit, même si ça vaut bien sûr chez n'importe quel compositeur, voilà. Mais peut-être que ce qu'il y a d'un peu original, c'est le fait d'improviser avec. Et du coup, j'imagine, je suppose que ça crée des sensations particulières pour l'auditeur qui entend une formation, on ne peut plus classique au niveau de l'instrumentation si on se réfère au jazz, et qui entend ces musiciens avoir des relations particulières, mais qui l'auditeur va pas on s'attend pas à ce qu'il analyse et se dise ah ben oui tiens, il y a tel intervalle en jeu ou on s'en contrefiche. Mais par contre, le fait qu'il y ait un langage particulier, déjà c'est pas ça qui va faire que ça va devenir de la musique. Ce qui va faire que ça va devenir de la musique, c'est le niveau d'écoute, c'est le niveau de disponibilité au moment où on joue, et ça c'est très fragile et ça vaut pour toutes les musiques. Mais si lorsqu'on arrive à avoir ça, en plus il y a le langage qui est mis en jeu et qui est particulier, qui crée des rebonds particuliers, des illusions non pas visuelles mais sonores, et donc l'auditeur peut être intrigué. Et du coup, lapsus intégré à ce qui se passe, et donc recevoir, développer lui-même des sensations particulières. C'est pas maîtrisable, mais si la musique se passe sur scène avec ce qu'on met en jeu, elle se passe aussi dans la salle pour l'auditeur.
Et je crois que la complexité, c'est quoi finalement? Je vais faire une métaphore textile. Et je veux dire, il y a des tissus très simples, très beaux, il y a des tissus très complexes, qui, vu porter sur quelqu'un, enfin je pense, je fais la métaphore parce que j'ai eu la chance un jour d'aller voir un défilé de haute couture Christian Lacroix, et j'ai beaucoup plus regardé les tissus que les filles, en fait. Enfin, j'étais complètement fasciné par la façon dont... Non, mais tu te dis, ah, je vais arriver. Mais en fait, le pouvoir de la lumière sur le tissu, etc., ça m'a vraiment fait... Et finalement, je crois que la complexité que vous abordez, c'est ça, en fait. C'est le maillage. Il y a parfois des maillages qui sont complexes, qui sont avec des chemins de chaque maille. Mais finalement, si c'est bien joué, si c'est, comme dit Guillaume, si on fait circuler ça, ça, c'est de la complexité, on s'en fout. Enfin, en tout cas, le public s'en fout. C'est pas le propos de l'orchestre. Le propos, c'est que ce certain type de maillage, il crée un son. Et que ça, si on change une croche dans ce truc, ça va plus sonner pareil. La complexité est intéressante. Mais c'est pas une fin en soi. Et pas complexe, certains morceaux pourraient être complexes. On l'écrit parce que ça correspond à une sensation qu'on a envie de ressentir. Et pour autant qu'on la maîtrise, on accède à des états de communication à l'intérieur de ça. C'est ça qu'on aime faire avec ce groupe.